Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode de littérature qui sera consacré au sixième volume de la série Bounty Hunters, donc sorti ou qui sort, selon quand est-ce que vous nous écoutez, le 21 février 2024 en France et le temps de traverser l'Atlantique à la nage, je précise là, au Québec, ça suit, mais il faut être patient. Ici Francis en direct de Québec, justement, et comme à notre habitude pour les émissions comics, maintenant, on retrouve John Sparrow à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean?
Coucou! Eh bien, ça va super. Je suis très, très content de te retrouver à chaque fois pour parler littérature Star Wars. Je suis toujours très excité quand on commence une émission.
On verra si le sujet du jour vaut cette excitation et si t'es très très content en tes cas de ta lecture. On spoilera pas tout de suite. Avant d'aller plus loin, on va saluer notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. On vous rappelle de joindre le groupe si c'est pas déjà fait. Venez jaser littérature Star Wars, que ce soit des sorties du jour là, comme on fait ce soir, ou que ce soit votre dernière lecture, même si c'est un vieux roman légende des années 80-90, il n'y a aucun problème. Les gens ne lisent pas tout dans l'ordre ou ne lisent pas que le canon, etc. Donc, c'est ça, venez discuter avec nous. Un petit quoi de neuf rapide, Jean?
Oui, un petit quoi de neuf littérature pour changer. En ce moment, il y a un peu que de ça, Star Wars. J'ai continué la série comics Obi-Wan, adaptée de la série, et c'est toujours très très nul et très très moche. Je vous conseille pas du tout de lire ça. Il y a quoi d'autre? Est-ce que tu l'as lu, toi? Est-ce que tu as commencé la série Obi-Wan en comics?
J'ai juste regardé. Je l'ai pas lu. Ouais. J'ai juste regardé ça disait quoi au niveau dessin, voir si c'était Georges Gentil, là, qui était un peu comme sur Mandalorian. C'est pas gentil, hein, si je me trompe pas.
Non, c'est... C'est Larocca, celui qui copie-colle. Hein. Je crois que c'est ça, hein. C'est copie-colle.
Mais non, fait que je pourrais pas juger, je pourrais pas spoiler à savoir est-ce qu'il y a de la plus-value par rapport à la série télé ou quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, perds pas ton temps là-dessus parce que c'est nul. Mais moi, je trouve ça très, très nul. Ensuite, j'ai commencé la mini-série Mace Windu. Et là, voilà, tu parlais de Georges Gentil, c'est notre point Georges Gentil, il faut nommer Georges Gentil dans chacune de nos émissions littérature.
C'est notre nouveau Larocca, dans le fond, c'est ça.
Voilà, c'est ça. C'est le nouveau succès à débloquer, il faut parler de Georges Gentil dans une émission.
Ok, ouais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé ça, les petites pastilles, là, succès débloqué.
C'est vrai qu'on a laissé tomber ça. En tout cas, c'est lui qui dessine Mace Windu, la mini-série en 4 numéros, et heureusement que c'est que 4 numéros, parce que le numéro 1 était alors déjà très 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 moche, mais bon, ça, on a l'habitude avec lui, mais vraiment très moche. Hein. Tellement moche que tout à l'heure, on en a parlé un petit peu vite fait, ça remonte limite le niveau de la précédente mini-série qui s'appelait c'était quoi, Jedi of the Republic Mace Windu, là, qui est sortie en 2017 peut-être.
Ouais, dans les premières, je dirais autour de ça, 2016-2017.
Ouais. Et ben en tout cas niveau scénario ça vole pas haut non plus quoi. C'est très très basique quoi. C'est un certain Marc Bernardin qui est au scénario, qui a fait ses armes sur des one shot, la révélation Vader Black White and Red. Mm-hmm. Et c'est vraiment pas ouf. Et tu vois, et c'est tellement pas ouf que même Marvel a baissé le prix du premier numéro de $5.99 à $4.99. Je sais pas, ils ont dû lire le truc, ils ont dit bon attends, on va baisser le prix et le reste de la série sera $3.99. C'est pour dire que voilà, ils y ont confiance hein, dans cette série là.
C'est mal parti. Ouais. Puis je vais rester comme toi au niveau du quad neuf sur la lecture du premier numéro de la série Mace Windu. Écoute, effectivement là, c'est atroce que les, tu sais que c'est probablement un peu hasard, mais n'empêche que les deux séries qui lui sont dédiés dans le canon soit aussi à chier d'un point de vue graphique. Puis, m'a dit, en considérant le caractère de Samuel L. Jackson, qu'on voit des fois, moi, personnellement, je commencerais peut-être à m'inquiéter de mes choix artistiques, là, parce que vraiment massacrer un personnage comme ça, il faut le faire. J'ai remarqué quand même, évidemment, on entrera plus dans les détails quand on fera une émission sur cet album-là en particulier, mais j'ai remarqué quand même sur certains aspects. Par exemple, au niveau des vaisseaux, des choses comme ça. Il y a quand même différent, mais c'est ça, au niveau des visages, ça n'a pas de bon sens. Deux cases l'une à côté de l'autre, c'est pas le même visage.
Oui,
voilà. C'est censé être Mace Windu. Ouais. C'est ça. C'est, moi, je ne m'explique pas, là. Parce que quand bien même, ce serait une question de goût, que quelqu'un aimerait beaucoup tel style. Mais là, le style n'est même pas conséquent d'une case à l'autre dans la même page.
C'est ça. Ah non, tellement incohérent d'embaucher un gars comme ça pour des séries Star Wars, que je comprends
ouais,
pas.
Ouais, ouais, non, c'est très, très, très décevant, je suis d'accord. Essayons de revenir un peu dans le positif. Il y avait quoi à se mettre sous la dent pour les auditeurs de Star Wars en direct récemment, Jean?
Ah, ben récemment, il y a beaucoup de Haute République à se mettre sous la dent, parce que nous avons critique de comics. Donc le comics La Haute République phase 2, tome 2, qui est sorti le jour même où on enregistre cette émission-là. Donc disponible pour vous. Ensuite, on a le comics La Haute République, phase 2, tome 2, mais les aventures cette fois, concernant les aventures de Sav Malagan, le pendant jeunesse des comics La Haute République, phase 2, ainsi que la critique du dernier roman en date, The Eye of Darkness, en compagnie de notre leader suprême, Danny, qui est venu se joindre à nous pour cette très bonne critique de livre. Voilà.
Ouais, ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que ça, puis même l'émission qu'on a faite juste avant là, sur les nouvelles, là, Tales of Light and Life, crée des discussions dans le Discord, sur les groupes Facebook, justement, tout ça. Fait que je trouve ça très cool que vous veniez partager vos avis. Puis c'est quoi, donc, Danny, justement, on a publié une sur une des nouvelles de Tales of Light and Life, celle de Daniel Oseholder, et il disait à quel point c'était nul. Là.
Ah ouais.
C'est pas ça dommage qu'ils nous le disent juste à l'interne, qu'ils ne partagent pas publiquement un avis comme ça. Mais bon.
Ouais, tu lui as suggéré de commenter sur YouTube. Ouais,
que les gens puissent réagir. Il y a peut-être des gens qui adorent Daniel Oseholder, qui ont adoré cette nouvelle-là. Qui sait? écoute, peut-être mentionner rapidement qu'il y a encore des gros rabais. Sur la boutique Star Wars en direct, donc sur Redbubble, là, sur toutes les boutiques, dont celle de Star Wars en direct, pour des chandails comme celui de Jean ou comme le mien, là, un petit mashup, création de Danny. Hein. Donc, mashup Lego Space Classic, que ça s'appelait, et Star Wars, évidemment. Je crois que là, c'est moins 20% sur tout, donc quand même. Moi, je trouve que 20%, ça se prend quand même, surtout ces temps-ci. Donc, écoute, on va passer en hyperespace, puis on attaque le sujet principal au retour.
OK, mets la gomme, Chewie.
Oh, crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Et donc, de retour de l'hyperespace. Donc, comme je disais en intro, on est là pour parler du sixième album de Bounty Hunters chez Panini Comics, qui inclut les numéros, là, les issues 29 à 34, le tout pour un 19€. Chronologie, ben, on est en temps réel, on va dire, avec toutes les autres séries ongoing, là, donc Star Wars, Afra et Darth Vader. Et donc, en plus 3, là, fait qu'on on se rapproche du retour du Jedi. Tranquillement, pas vite. On est encore là, après l'Empire contre-attaque, mais je pense qu'on est vraiment du proche. Parce qu'il faut, pour rappel, hein, ceux qui ont zéro notion de la chronologie Star Wars, il y a juste un an entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Donc, relisez tous les comics, les romans, il commence à se passer beaucoup de choses en 12 mois. Là.
Il s'en passe des choses.
Ouais, je pense qu'on est une semaine avant, je sais pas. Bref, l'album sort, comme je disais, le 21 février, en même temps que deux autres albums. Au scénario, on retrouve Ethan Sachs, hein, qui est là depuis le début de la série. Au dessin, on a Paolo Villanelli. Puis pour un numéro, il y a un dessinateur invité, là, c'est Alessandro Miracolo. Je me souviens plus c'est quel numéro, là, c'est le troisième ou quatrième d'album. Aux couleurs, on a un Arif Prianto et en couverture Giuseppe Camuncoli. Mm-hmm. Donc, en une phrase, Jean, ta satisfaction ou pas de l'album?
Juste une phrase, parce qu'on va détailler bien plus en détail plus tard. Moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé retrouver le ton du début de la série Bounty Hunter, donc des deux premiers tomes, on va dire, avant que ça tombe dans les crossovers à foison. Mm-hmm. Et là, c'est ça, on retrouve une série plus ou moins indépendante comparée à ce qu'on avait eu pour les tomes 3, 4 et 5. Que je rappelle, on n'avait pas critiqué, hein, donc on avait laissé tomber la série au tome 2, et mm-hmm. ensuite on s'était lancé dans toutes les critiques des crossovers, War
of the Worlds, albums événements là, que Panini les a.
Voilà. Et donc ça, c'est la première fois depuis le tome 2, donc depuis 2021, hein, que c'était une critique de toi et Tom, d'ailleurs, si je me rappelle bien, j'ai écouté l'épisode récemment, pour me remettre dans le bien. Et ça me fait plaisir de retrouver voilà, les Bounty Hunters qu'on adore, mais vraiment séparés de tout le bordel de la galaxie.
Ouais, effectivement, les liens avec le reste sont pas mal terminés dans cet album-là. Mm-hmm.
Ouais, mais toi, est-ce que t'as aimé cette lecture?
Rapidement, pas mauvais. Effectivement, comme tu dis, vu qu'on a arrêté de critiquer l'album les 100% pendant une certaine période, là, j'aurais du mal à dire plus que le précédent ou quelque chose comme ça, parce que là, ça vient tout mélanger avec les Crimson Eden Empire et avant, là, la guerre des chasseurs de primes et plus. J'ai aimé certains aspects, mais je peux pas m'empêcher. Moi, si je pouvais, il y a une expression, là, j'imagine que ça existe aussi en France, là, mais quand on dit la stratégie des petits pas, c'est ça. Je trouve qu'au niveau scénaristique, là, on est dans des petits pas. Ça avance vraiment pas vite pour une série en plus qui est très, très action, dans laquelle il y a toujours des batailles, des courses, tout le monde crie. En fait, je m'imagine cette série-là en audiobook, j'aurais mal à la tête, tellement tous les personnages sont toujours en train de crier. mais pourtant, au niveau histoire, ça avance vraiment à petits pas. Fait que, bref, je m'arrête là pour l'instant.
Mais en fait, il faut savoir que, pour rappeler, c'est vrai que ceux qui nous topent là avec ce tome 6, ils vont essayer de retrouver les émissions des tomes précédents. Il faut dire que si vous voulez nos avis sur les numéros de Bounty Hunter entre le tome 2 et 6, du coup, il faut que vous réécoutiez tous les War of the Bounty Hunter et Crimson Reign. On n'a pas fait non plus Eden Empire parce qu'on s'était rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas vraiment nécessaire qu'on critique les Eden Empire dans les numéros compilés Panini. Donc, ça risque d'être un peu compliqué là, de nous reprendre maintenant. Là.
Ouais, non, c'est ça. C'est l'erreur qu'on a faite de basculer sur les albums, les événements. Là. Évidemment, au début, on pensait qu'on avait juste un événement, que ça allait durer quelques mois. Là. Finalement, ça fait 2 ans, puis on est encore dans des événements. Mais cette fois-ci, c'est un peu comme les autres séries. On a fait le premier, là, Dark Vader numéro 6, en décembre dernier, là, dans le temps des fêtes, qui est sorti. Là, dans le fond, Bounty Hunters, le prochain, ça va être Afra, numéro 6, et Star Wars, numéro 6, a été retardé au mois de mars. J'ai toujours pas compris pourquoi. Mais bref, fait que c'est ça. On retombe sur les albums 100%. Et de toute façon, dans le cas de Bounty, il y en a que l'histoire générale continuait. Je pense à Afra, entre autres, un peu. Mais dans le cas de Bounty Hunters, ça fait bien parce que je trouve que c'est ça. On est vraiment rebasculé sur leur propre histoire à eux. Non plus. L'aube écarlate, là, puis tout ça. Ouais. Donc, écoute, si je te demandais un petit résumé rapide, il se passe quoi dans cet album-là, Jean?
Oui. Alors, écoute, on va essayer de rappeler le background de tout ça. Donc, le tome 6, donc, il se situe entre donc, l'événement Crimson Reign, qui était décrit dans le tome 5, et celui donc, de Dark Droid, donc, qui sera le tome 7. On est vraiment entre deux crossovers, là. On est plus dans les événements de Hidden Empire, mais encore une fois, comme on disait, Bounty Hunter est peu impacté dans ce crossover, disons que les numéros 29 à 32 le sont un petit peu dans le background, tu vois, il y a toujours Crimson Down dans le background, les numéros 33 et 34 sont pas du tout liés à Crimson Down, ou encore une fois très très peu, qu'encore moins, on va dire, mais voilà, quoi. Tout cas, en gros, dans le tome précédent, Vador avait recruté Valance, donc Valance qui était donc un bounty hunter relativement indépendant, hein, une fois qu'il avait quitté l'Empire. Là, il était rebasculé chez les Impériaux, dans la lutte de l'Empire contre Crimson Dawn, donc. Alors que son ancienne équipe de chasseurs de primes a été reprise par Tonga, et donc avec ses anciens potes, là, tout ce qui est Bosque, Zuckuss, 4LOM, tout ça. Et tout ce petit monde, donc la Team Valence et la Team Tonga, vont tous se rendre sur la même planète, Bestine. Le titre de l'album, et d'ailleurs, s'appelle Beldan on Bestine, ouais. Qu'on pourrait traduire peut-être en français comme Chahut sur Bestine, un truc comme ça, Bazar sur Bestine. Donc voilà, et on commence le tome comme ça. Donc le groupe de Tonga va target un transport impérial. Bosk va se faire attaquer par le Trandoshan de la team de Valence, parce que Valence aussi a un Trandoshan dans sa famille d'impériaux. Mmh. Et au final, tout le crew de Tonga en fait va se retrouver piégé par la team de Valence qui les attendait là. On aura aussi un petit flashback du temps de Nakano Lash. Donc Nakano Lash, c'est un personnage qu'on avait connu dès le premier tome de Bounty Hunters. On le rappelle, c'est un peu la chasseuse de primes qui avait aidé Valence une fois qu'il avait quitté l'Empire à commencer sa carrière de chasseur de primes. En gros, c'est elle qui l'avait recruté dans le groupe. Donc là, le petit flashback sympa, on voit comment Tonga rencontre Locha, notre membre de l'équipe aussi, comment Tonga et Valence se sont connus, etc. Et hop, on retourne dans le présent, dans ce fameux transport impérial où les deux se retrouvent, mais évidemment dans le camp adverse cette fois-là. Et là, Tonga va lui révéler que la base rebelle Cadelia est censée être sous bonne garde. Donc Cadelia, on va parvenir, c'est un peu une enfant prodige qui veut être protégée par les Bounty Hunters, l'Alliance, mais que l'Empire et Queen's Down le cherchent. Enfin bref, c'est un peu le MacGuffin de cette série Bounty Hunters. Donc Cadelia, qui est censée être sous bonne garde, a été bombardée par l'Empire, tuant Yura, qui est l'ex de Valence, qu'il aime toujours. Donc voilà. Et cette révélation va faire péter un plomb à Valence, qui va se retourner contre les Impériaux. Ça, plus le fait aussi qu'il y a une histoire de medical supplies que Valence était censé livrer à la ville environnante sur la planète. Là. Mais ça se trouve que c'est pas vraiment des médicaments, c'est plus des armes, des bombes pour éradiquer la ville, justement. Donc ça, plus le fait que son ex est morte, ça va vriller Valence, qui va complètement péter un plomb. Jusqu'à ce que Dark Vador arrive sur Bestine. Et là, grosse baston, donc baston Valence contre Vador, très très cool. Vador va aussi en profiter pour bombarder la ville, comme c'était prévu. Au moment d'achever Valence, il va demander ça au lieutenant Jalia Hayden. Donc Jalia Hayden, c'est une impériale qui s'est amourachée un petit peu de Valence, qui s'est rencontrée quand Valence avait rejoint l'Empire. Et Jalia est un petit peu amoureuse de Valence, donc elle n'ose pas buter Valence, elle va lui tirer une balle, mais littéralement dans la tête, mais comme elle sait qu'il y a un crâne d'acier, là aussi littéralement, Valence va réchapper à son exécution, évidemment. Vador, évidemment, est très désappointé par Jalia et va plutôt faire appel à, attention, l'Inferno Squad pour régler le problème. Donc voilà. Donc ça, c'était très très cool aussi.
Pour ceux qui ne se souviendraient pas ou qui ne voient pas, qui ne nous écoutent pas en vidéo, c'est la fameuse équipe de Hayden Versio. Du jeu Battlefront 2, donc, et du roman que beaucoup, plusieurs avaient bien apprécié, là, c'était justement Inferno, je pense que c'est ça le titre, hein, l'Escouade Inferno,
ouais. Me semble. Je voulais en parler plus tard de ça, parce que j'ai jamais eu trop l'occasion de parler d'Inferno Squad, de ce bouquin-là en ce particulier. Donc. En tout cas, voilà, donc l'Inferno Squad va poursuivre Valence et son équipe, donc Valence qui a rejoint son équipe de Bounty Hunter, pour le capturer et effacer sa mémoire, en fait. Parce qu'il possède évidemment des données classifiées, des données impériales classifiées. On a Zukus qui va faire un malaise, ce qui va nous permettre un peu de connaître son passé via des flashbacks, là aussi.
On a un numéro entier, en fait, là, du passé de Zukus.
Okay. C'est ça. C'est ce numéro-là. Ouais. Voilà, c'est numéro 32, c'est celui-là qui est dessiné par un autre dessinateur, si je me rappelle. Les Bounty Hunters vont s'échapper et atteindre une espèce de planète, un spaceport plutôt mal famé, très branché, marché noir, tout ça, histoire de se poser un peu et de se faire oublier par l'Empire. Mais ce n'était connaître l'Inferno Squad, parce que l'Inferno Squad, ce sont des experts, du coup, ils sont balèzes dans ce qu'ils font, et ils ont réussi à suivre Valence et sa team sur cette planète-là. Donc Tonga va être confronté à Hayden Versio, qui va la capturer. Hayden va se faire passer pour Tonga, aussi, et attaquer le crew. Là, on va avoir une grosse scène de baston où l'Inferno Squad va complètement neutraliser le groupe de Bounty Hunters, donc ils sont extrêmement doués. Il ne restera plus que Valence et Bosque. Alors, c'est rigolo parce que Valence et Bosque, c'est les deux de la team. Ils ne peuvent pas s'encadrer, ils passent son temps à se foutre sur la gueule. Et là, ils vont devoir team up contre l'Inferno Squad, justement. Mais au final, après pas mal de scènes de baston, encore une fois, Hayden Versio va réussir à convaincre Valence de se laisser effacer la mémoire de lui-même en utilisant l'argument Jalia Hayden, justement, la love interest de Valence aussi. Et voilà, donc Inferno Squad va réussir sa mission, hein, va laisser le crew de Bounty Hunter KO, mais vivant, donc ils vont tuer aucun, donc c'est bon, on capture aucun. Eux, ils ont fait leur mission, ils rentrent chez eux, et voilà, ils vont laisser un petit peu les Bounty Hunters récupérer. Et ça finit un petit peu comme ça. Voilà, voilà, le scénario.
Excellent, écoute, ouais, ben ceux qui n'auraient pas aussi suivi, je pense qu'on ne l'a pas mentionné au début, mais c'est ça, hein, c'est que Valance n'est pas seul comme, on va dire, entre guillemets, chasseur de primes dans l'équipe de Vador, là. C'est ça, on rappelle, hein, que Vador est rendu avec sa propre équipe de chasseurs de primes, il y a celle de la série Chasseurs de primes, il y en a d'autres dans la série Star Wars, en tout cas, c'est ça, on l'a mentionné dans d'autres albums, là, mais que ça commence à être le gros bordel à réussir à suivre. Comme vous avez vu là, c'était 32 Shan contre 32 Shan. Des fois, c'est plein de droïdes. Bref, c'est ça. Je trouve qu'on a beaucoup d'intrigues, sous-intrigues et compagnie là. Quand je disais à petits pas, entre autres, l'intrigue de la Vulanla, là, celle du clan des
Ah, Vulcora. Oui. Ah oui, j'en ai même pas parlé. Vulcora, tu vois. Ouais.
Les Unbroken Clan. Là. Ouais. Ça avance à coup de quoi 3 pages dans tout l'album là.
C'est bien que tu le mentionnes là. Il y a toute une sous-intrigue voilà, avec Vulcora et IG-88 qui est là, mais qui n'est pas du tout related to l'histoire de Valance, ouais. Vador et tout ça quoi. Ouais. Toute une side story qu'on a là et qui ne sert pas à grand chose, du coup je n'ai pas mentionné dans le résumé, je t'avoue.
Ouais, non, effectivement, c'est. Ben, je comprends parce que ça aurait été plus confondant qu'autre chose. Comme je disais, c'est peut-être une page ou deux gros max, là, dans. Puis pas dans tous les numéros. Fait que c'est vraiment. C'est un peu spécial. Évidemment, ça s'inscrit par contre dans la trame plus large, là, de toute cette série-là depuis le début, là, Bounty Hunters, mais c'est ça. Faut. Non, tu sais, non seulement faut l'avoir toute lue, mais faut se souvenir aussi, là, parce qu'on rappelle que ça fait 2 ans, là, que ça roule. Donc. Est-ce que vous vous souvenez d'une lecture que vous avez faite d'un comics il y a 2 ans? Je veux dire, c'est en tout cas. Excellent, ben merci Jean. Si on restait sur le scénario, comment tu as trouvé la job de Ethan Sachs cette fois-ci?
Voilà. Non, ben, Ethan Sachs, tu fais bien de le mentionner parce que c'est l'unique scénariste qui est resté du numéro 1 au numéro la 42 qui a fini le mois dernier. Là. Donc la série ouais. Bounty Hunter est terminée. Là, on critique l'avant-dernier tome. Donc on aura encore le tome 7 à critiquer. Après, c'est fini. Il n'y a plus de Bounty Hunter. Ouais. Donc c'est très cool.
Ben, mais, effectivement, au nombre de fois qu'on a mentionné qu'on trouvait ça dommage que les scénaristes changent, ben là, pour une fois, c'est ça, faut quand même... Mais les scénaristes ont tendance à moins changer quand même que les dessinateurs, dans les comics, il faut avouer. En tout cas, ça permet une trame qui suit. Reste à voir, là, dans ce cas-ci. Moi, j'ai un gros doute, tu me dis ce que t'en penses, Jean. Je serais très, très surpris que de la manière que va se terminer dans le tome 7, là on parle du 6 aujourd'hui, mais tu sais que dès le début, il y avait une idée de où est-ce qu'il voulait s'en aller avec cette série-là de Bounty Hunter. Surtout en plus, considérant les détours pris dans les événements là, de Crimson's Reign et War of the Bounty Hunters, j'ai beaucoup de mal à croire que tout ça était un plan réfléchi. Là. Au moins, tu sais, un brouillon, là. Quelconque ben, plan que tu fais là, avant de
planter. Je suis un peu d'accord avec toi. Je sais pas trop, parce que Ethan Sachs, tu vois, il nous parle de Nakano Lash, il nous parle de Kodaleya, tout ça. Et ça, je pense que c'est une histoire qu'il avait sur peut-être 3-4 tomes. Mais comme tu dis, les événements se sont pointés et au bout de 2 tomes, il a dû faire un détour avec 3 tomes de détour. Quoi. Donc en fait, ça a allongé le truc et là, il revient sur ce trame-là. Je pense que sur 3-4 tomes, la trame Nakano Lash, l'histoire de Valance, son passé et l'histoire de Kodaleya, ça aurait été plus compréhensible que là... avec l'histoire de Crimson Dawn et tout, là. C'est vrai que ça a allongé la sauce et ça a rendu un peu indigeste.
Ouais, t'as sans doute raison, écoute. Peut-être que cet aspect-là t'es pas prévu au départ, tous les fameux événements, et puis en plus que ça dure aussi longtemps.
Ouais, c'est trop long. C'est trop
sinon, là, on peut peut-être mentionner, parce qu'avec les comics, on a tendance à moins le faire un peu que quand c'est les auteurs de romans, mais côté comics, c'est un sac, c'est ça, c'est pas un débutant. Je revérifiais aujourd'hui son pedigree. C'est pas c'est celui de la mini-série Galaxy's Edge, de la mini-série Halcyon Legacy, hein, donc 2 produits sur des commandes là, purement publicitaires là, pour les parcs de Galaxy's Edge. C'est lui aussi qui avait fait une mini-série en 4 numéros, là, Allegiance, qui était pour promouvoir l'épisode 9. Un peu ce qui se passait entre le 8 et le 9, autrement dit. Là, qui était pas mauvais, là, mais ça brillait pas non plus. Il est souvent associé plus à Will Sliney là, au niveau dessin. Là. Je suis très content que ce soit pas le cas ici. Mais c'est ça, je peux pas dire que c'est pas un Charles Soule. C'est pas, ça sera pas dans mes préférés, même si on est rendu habitué de l'avoir.
Ouais. Mais justement, dans le tome 2 que tu as écrit avec Tom à l'époque, en 2021 déjà, et je trouvais ça très très juste, tu disais que en fait...
Il y a deux ans, là, ça veut dire que ça a commencé le premier.
Ouais. Tout. Oui, c'est vrai. Non, c'était en septembre 2021, effectivement. Ça fait bien longtemps. En tout cas, tu disais que Ethan Sachs, ben, à l'époque, il avait déjà fait Galaxy's Edge et Allegiance. Il écrivait ses histoires, mais en fait, ce sont des gros actionneurs, en fait, ces histoires. Et du coup, les scénarios sont généralement très simples et très rapides, en fait. Il écrit une histoire qui n'est pas vraiment développé, mais qui envoie du bois, quoi. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup d'action. Et on l'a vu aussi, hors Star Wars, il a fait du Old Man Hawkeye et Old Man Quill, qui sont aussi deux gros blockbusters d'action, tu vois. Et là, c'est lui qui fera le Jango Fett, qui a prévu le mois prochain, je crois, la mini-série Jango Fett. Bon, il reprend un petit peu le Chasseur de Primes à une autre époque. Mais ouais, c'est plus un actionneur que... C'est moins subtil que du Charles Soule, effectivement. Mais j'aime bien son style, quand même, tu vois. En fait, ces scénarios, depuis le début de Bounty Hunters, ça souffle le chaud et le froid, quoi. T'as eu des hauts, t'as eu des bas. Et généralement, moi, les bas, ils correspondent plus à tout ce qui est crossover. À la limite, War of the Bounty Hunters, ça allait. Et tous les trucs avec Kira après, moi, j'ai trouvé que c'était très, très nul. Et on lisait à chaque fois dans les WhatsApp ou quoi. Oh là là, il faut que Bounty Hunters s'arrête. Ça va n'importe où.
C'est fait beaucoup d'allers-retours hein, aussi. Donc, ça devient, je trouve, dur à suivre. Non seulement des personnages, pour la plupart, qu'on ne connaît pas. Au début, il y avait Boba Fett, un peu Bosk, tout ça, mais généralement, c'est ça, c'est une équipe qui a créé. Et c'est ça, les allers-retours là, de Valance qui retourne à l'Empire, qui revient, les différentes équipes de chasseurs de primes, tout ça, c'est. Moi, personnellement, j'ai du mal à suivre. C'est vraiment une série que j'ai beaucoup de mal à comprendre, on en est où dans l'histoire, là, puis quand j'en lis un.
C'est vrai que je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. En fait, le problème de Sachs, c'est qu'il s'éparpille trop sur les personnages. En fait, au lieu de retenir un corps principal qui est vraiment cool, hein, Valance en premier lieu, c'est un personnage ultra intéressant. C'était une très très bonne idée de le ramener au canon. Fait aussi, quand il est là, il est très très bien décrit, bien mieux que dans la série, par exemple. Bosk, Zukus, Forelohem, ça va. Dangar, que Tom appelait papier toilette, je crois, dans ce podcast. Un peu moins, mais il est moins présent là, donc ça va. Mais Bosk, Zukus, Forelohem, Valance, tout ça, ceux-là ils sont très très bons, ceux qui sont dans les films en gros, quoi, plus Valance. Mais si tu fais avec tout le reste des personnages que Sachs a créé, donc t'as Tonga, on a mentionné Losha, Tassou, Vukora, tout ça, c'est des personnages, on s'en fout un petit peu en fait. Et il essaie de leur donner une background, un passif et tout, mais en fait, ils sont tellement pas charismatiques. On s'en fout un peu, on s'ennuie un petit peu, et à chaque fois qu'ils sont là, t'es là, donnez-moi du Valance, donnez-moi du Bosk. Là, au moins, on s'éclate, quoi. Et c'est le cas dans ce numéro, il y a beaucoup de Valance, beaucoup de Bosk, et on s'éclate, quoi.
Non, je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à ces nouveaux personnages.
Pareil.
Je savais pas dire, pourtant, c'est des personnalités certaines assez distinctes, quand même, là, mais je sais pas. C'est pas parce que. Je dirais même pas que c'est une question d'apparition dans le film, parce que, tu sais, les apparitions de Bosk. Forelohem, là, puis on s'en fout, là. Ils sont sur le.
Complètement.
Ils sont sur le voyons, le deck, le pont, là, de... Ouais. Tu sais, on les voit, on les entrevoit dans l'Empire contre-attaque, c'est tout. Mais, je sais pas. C'est. Puis là, ben, on a IG aussi, qu'on connaît un petit peu plus, mais comme on disait, il est dans une sous-intrigue complètement à part. Puis Valance, comme tu disais, moi, c'est un personnage que j'avais été. C'était une agréable surprise. Vraiment tout son background avec Han Solo là, puis à l'académie, son histoire d'amour avec celle qui est devenue une rebelle, ça avait commencé dans Target Vader là,
c'est ça.
Fait que ouais c'est ça, mais là je sais pas trop d'aller-retour, trop de je suis brisé, je me fais réparer, bon là évidemment c'est la mémoire qui va être affectée ici. On peut pas tout dévoiler parce que c'est ça, il va y avoir un volume 7 là, après. Mais c'est ça, beaucoup de... Moi, je dirais, écoute, si on peut essayer de fermer ça sur une note positive au niveau scénario, peut-être justement l'escouade Inferno, tu voulais en parler.
Oui.
On avait quand même été teasé dans le volume précédent, dans le 5, à la fin du 5, on savait qu'il allait se lancer, là. Je pense qu'il apparaît, ben oui, tu vois, c'est ça, il apparaissait même sur la couverture du numéro 5.
Ah, d'accord. Donc,
Biden Verfield. Fait que tu sais, quand je disais par petits pas, là, c'est que là, on ne les revoit pas avant la fin du volume 6.
Mm-hmm. C'est ça.
Elle apparaissait déjà, puis après ça, ils n'apparaissent pas dans quoi? 4 numéros, puis ils réapparaissent après ça dans un 5e numéro après, bref. Puis tout un numéro, comme je disais tantôt, filler un petit peu sur Zuckuss. C'est intéressant d'avoir toute sa backstory, là, Zuckuss, quand son enfance, tout ça. Mais ça a-tu fait avancer l'intrigue de la série?
Non, c'est vrai que oui, niveau intrigue, peut-être pas.
Fait que l'escouade Inferno, toi aussi, t'étais content d'y revoir?
Ouais, ben, j'ai bien aimé, moi, le fait qu'il y ait... En fait, il y a deux arcs dans ce tome-là. T'as le truc sur Bastine. Moi, j'ai beaucoup aimé, déjà, pour conclure sur l'arc sur Bastine, même si il s'éparpille avec plein de personnages. Au final, je trouve que c'est un très, très bel arc. Le duel des deux Trandoshans, moi, j'ai beaucoup aimé. Le pétage de plomb de Valance et son combat contre Vador, on reviendra dans les dessins, mais j'ai trouvé ça génial, quoi. Malgré l'action quasi permanente, quoi, ça, que ça a quand même un talent d'écriture, tu vois. Il y a des dialogues souvent savoureux, tu vois, avec des petits sous-entendus, des petites blagues et tout, quoi. J'ai bien aimé son écriture, quand même. Et comme tu dis, donc, on développe aussi le personnage, dont Zuckuss, c'était une surprise, ça, vraiment. Développer Zuckuss, c'était là, ok, voir sa race complètement, ça, son costume et rien. C'était assez particulier, on va dire, mais il y a une araignée géante qui remonte de fou dans son passé, là. Donc, moi, ça m'a fait plaisir. Par contre, ouais, tout ce qui est le passé de Tonga, Losha et Vulcora, ça, pose F total, mais bon. Sax essaye hein, de les développer, mais moi je trouve ça marche pas. Et effectivement, donc il ramène l'Inferno Squad. Alors malheureusement, j'étais pas là pour la critique du Battlefront 2. Je crois que j'étais pas encore membre de Star Wars en direct. Et c'est dommage parce que je t'aurais mis un 18 sur 20 sur ce bouquin. Parce que moi, j'ai pas joué au jeu Battlefront 2. Je crois que je l'ai. Moi, je l'ai sur PS4, mais j'ai pas encore lancé. Mais par contre, ouais, j'avais regardé déjà le film du jeu. Tu sais, les cinématiques collées sur YouTube. Là. Et j'avais enchaîné sur le bouquin. Et le bouquin, pour moi, c'est une pépite un peu méconnue hein, du canon Star Wars. Je trouve que c'est un des meilleurs romans canons. Enfin, c'était tellement bien écrit. C'était Christy Golden voilà, qui avait écrit ça.
Quand c'est associé à un jeu vidéo, hein, les gens, des fois, ça donne même pas la peine. Hein, mais oui, c'est, je crois qu'il y avait Aude aussi dans notre équipe qui avait bien aimé. Ah, moi, j'avais quand même préféré celui sur Battlefront 1, là, qui n'était pas du tout du même genre. Là. Le premier, c'était plus un roman de guerre. Inferno Squad, c'était plus un espionnage, infiltration, tout ça.
Ouais.
Alors que l'équipe n'est pas du tout dans le type infiltration. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit dans le jeu vidéo, par exemple.
Qui est,
moi, ça me faisait penser vraiment à des missions de Battlefront 2.
Et oui, une équipe d'élite là, qui va... Moi, en tout cas, ce que j'avais beaucoup aimé dans le... Dans le livre, c'est déjà qu'ils avaient retconné le fait que ben, Iden Versio, qui est la leader de la team, a participé à la bataille de Yavin. Donc, c'est une des pilotes qui se trouve pendant la bataille de Yavin, quand l'étoile de la mort se fait éclater, et qui survit, du coup. Voilà, donc ça, c'était très très cool, ce petit... c'est quoi, c'est un retcon, ouais, ce petit retcon qu'il avait fait dans le bouquin. Et là, voilà, quand moi j'ai vu Inferno Squad réapparaître dans ce... Mais dans ce comics-là, parce que c'est pas un squad qu'on a vu très souvent dans le canon. Il y a des mentions ici et là. Genre, je me demande si dans les Alpha Base Squadron, ils sont juste mentionnés, mais ils sont jamais présents, quoi. Et là, ils reviennent, quoi. C'était vraiment une grosse, bonne surprise. Donc, très, très cool, Ethan Sachs, d'avoir ramené ça.
Mm-hmm.
C'est un groupe que j'aime beaucoup. Voilà.
Ben, moi, j'ai trouvé que, ouais, c'est ça. C'était une très bonne idée. Puis quand même, ça c'est le bon médium, je trouve, là, d'une équipe d'élite là, qui à qui on confie les jobs qui ont échoué par le passé, ce qui est le cas là, dans le cas de l'Empire qui court après ces chasseurs de primes là. Mais c'est ça, je trouve que c'est allé beaucoup trop là. On nous a teasé ça 6 numéros avant. Puis c'est ça. Au final, ça dure. Par exemple, j'aurais aimé que tout l'album, tu sais, que ce soit pendant tout l'album, puis qu'il y ait un peu plus. Là, dans le fond, il essaie de les attraper une fois, ça marche pas. Il leur tend un piège, ça fonctionne. Je viens de vous résumer en quelques secondes toute cette intrigue-là.
Ouais, c'est vrai qu'en gros, c'est un peu ça. Ouais.
Écoute, il y a une petite déception de ce côté-là, mais l'idée quand même était bonne. Si on basculait au niveau dessin, Jean, comment tu as trouvé le travail de Paolo Villanelli, qui est aussi est là quand même depuis le début. Il n'a pas tout fait, là, comme je disais encore une fois ici, un numéro d'exception. Mais globalement, c'est Villanelli depuis le début, comme ça.
Bah en fait, au total, sur les 42 numéros de la série, il en aurait fait 31. Donc, il n'était pas là sur 11, mais c'est pas mal. Hein. Franchement, 31 numéros, c'est respect. Ouais. Et ouais, pour le numéro, c'est quel numéro là où il n'est pas là? Le numéro de Zucus, là, le 30,
32, je crois.
Voilà. 32, ben voilà, ben, je sais pas, Paolo était malade, du coup, c'est lui qui a dû remplacer. Parce que ouais, lui, comment il s'appelle? Alessandro? Lui, il est tout le temps là que pour un seul numéro, pas par série, il a fait un petit peu de Yoda.
Un remplaçant. Un joueur remplaçant.
Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le gars qu'on appelle quand l'un est soit à la piscine, soit il est malade. Il n'a pas eu le temps de rendre son numéro. En tout cas, moi, parlons Villanelli, pour revenir sur lui. Moi, j'aime beaucoup son style, bah, parce qu'en fait, vu que c'est un comics très actionneur, on l'a dit, ben, je trouve que son style correspond très très bien au récit, très dynamique. Ouais. Moi, ça me rappelle un petit peu les Ultimate X-Men des années 2000 qui avaient commencé avec... c'était Adam Kubert qui avait dessiné. Et les Ultimate X-Men, du moins à leur début, c'était très 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 action et ça collait parfaitement. Donc moi, ça me rappelle énormément ce comics-là. Et voilà, un petit peu de nostalgie là-dedans. Donc ça me fait plaisir. Moi, le Villanelli...
Les gens qui nous écoutent juste à l'audio, on rend pas vu à l'image, on va le mentionner. Il y a tellement d'action qui pleut, c'est l'averse permanente pendant les trois premiers numéros.
Ça, c'est pas génial ça?
Oui. Après, tu auras remarqué que dans le premier numéro de Mace Windu dont on parlait tout à l'heure, c'est la même chose et que c'est tellement moins bien fait. Là, c'est vrai.
C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et oui, mais
c'est vraiment pas la même qualité de.
Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai que tu fais bien, la comparaison fait mal, mais faire pleuvoir, je suis pas dessinateur, mais j'imagine que c'est un travail de fou, parce que non seulement tu dessines l'action et tout le bazar, tu dois aussi dessiner la pluie qui doit prendre du temps, quoi. Ouais. Et je trouve qu'il s'est mis encore plus ce challenge-là, tu vois, Villanelli, et il le relève à merveille, hein, le fait d'avoir foutu de la pluie sur cette planète, déjà aquatique, en plus c'est une planète aquatique, donc il y a quasiment de l'eau tout le temps partout. Je trouve ça génial. Le passage, tu l'as sûrement noté, mais quand Vador arrive enfin sur la planète et qu'il descend du vaisseau, t'as les gouttes de pluie qui atterrissent sur son sabre et t'as la vapeur, tu vois. Rien que ça, tu vois, dans le détail. C'est tellement bien chaud que je l'avais sélectionné, cette image-là.
Ouais, je l'ai à l'écran,
Ah voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est rien que ça, tu vois. Mais je trouve ça génial. Et la pluie, ça donne un ton à Stark sur Bestine, là. Mais je trouve ça magnifique, quoi. C'était trop, trop beau.
C'est vrai.
C'était magnifique. Magnifique. Donc on le rappelle, Villanelli, lui, il avait fait un peu de Lando, le Lando version Donna Glover, donc qui était très très bon. Et il avait fait le très bon Fallen Order aussi, le comics préquel au jeu, qui était très bon.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'était donc, comment ça s'appelait dans
les il y avait Fallen Order, Dark Temple, c'est ça.
Dark Temple. Ouais. Écoute, je suis d'accord avec toi. C'est dans le cas de Villanelli, moi je trouve que c'est une valeur sûre. C'est peut-être pas son meilleur de la série, là. Je pense entre autres au Trandoshan. C'est vraiment très très joli, ces Trandoshan tout le temps.
Super.
Mais il faut avouer que dans le premier, je pense que c'était dans le premier ou le deuxième, c'était encore plus spectaculaire que ça. C'est découpage, des fois, hein, c'est original, c'est dynamique. Je pense par exemple à celle-là, là, qui est les deux équipes se rendent compte qu'ils s'affrontent l'une l'autre. Des choses comme ça. Fait que j'ai pas spécialement de quoi lui reprocher, sinon que parfois justement ça c'est tellement dynamique, on va dire, dans les batailles que ça peut entre autres justement les fameux combats de Trandoshan ou des choses comme ça. Les combats à main nue, là, parfois, il y a un petit côté manga là, que je trouve ça vient un petit peu difficile à suivre et il y a un petit côté facilité ou raccourci de. Pour donner l'aspect dynamique, on n'a plus de fond. Hein, donc, le fond n'est pas uni, donc c'est pas de la paresse totale comme dans certains autres cas, mais ça n'empêche pas qu'il n'y a plus de fond. Ça devient comme des flous là, rayés. Moi, c'est pour ça que ça me fait beaucoup penser aux très peu de mangas que j'ai lus dans ma vie. Là, mais...
Non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand il pense à tu montes cette image-là de Valence contre Bosque, là, c'est trop ça, quoi. Ça fait vraiment un manga avec le background complètement distordu par derrière. Mais t'as vu, ces splash pages, ils sont à tomber, quoi. Ils sont super.
Ouais, effectivement, on avait sélectionné certaines, avec entre autres le bombardement de la cité aussi, tout ça, des choses comme ça.
Super.
Fait que, des petits bijoux. Là. Moi, je pense entre autres aussi quand que. Puis ça m'a surpris en originalité, là, quand on est un peu dans la tête de Valence. Là, je trouve ça très spécial. Là. Puis la suivante, c'était. C'est ça, quand il est au sol, là, avec la tête de mort. Puis le. Magnifique. Ah, ça, vraiment, là, ça, c'est digne d'une affiche, là, je trouve. Ouais. Puis tu as mentionné effectivement Vador sous la pluie. Là, ça, c'était spectaculaire. Fait que, pour Villanelli, ben, excellent. Comment t'as trouvé la différence avec l'autre dessinateur? Je me souviens plus son nom.
C'est Alessandro Milacolo. Donc, c'est deux Italiens, j'imagine. Très, très bons Italiens, au niveau dessin. C'est fou, ils ont un talent de fou. Ben, moi, Miracolo, j'aime bien. Parce que déjà, c'est, bon, on l'a dit, un peu un remplaçant. Mais il a fait d'autres choses. Hors Star Wars, il a fait énormément de trucs Marvel, dans du X-Men notamment. Mais lui, il est très connu pour ses comics plus branchés, on va dire, adultes. Quand je te donne les séries comme, par exemple, Deja Torres. Donc, Deja Torres, c'est la copine de George Carter dans la saga cosmique.
George Carter sur Mars, hein.
Voilà. Donc, il y a déjà J.J. Torres, qui est un peu la princesse de cet univers-là, qui a sa série de comics. Il a aussi fait Red Sonja, donc ça, c'est du Conan, Vampirella, Grim Fairy Tales. Donc, tu vois un petit peu le genre, tu vois. C'est souvent des personnages féminins plutôt voluptueux, on va dire. Une patte artistique très, très marquée.
Que c'est poli de comme ça.
Voilà. Donc, ben, ouais, c'est une spécialité, on va dire.
Ouais, ben, on en style... J'ai trouvé qu'on s'en rendait peu compte, c'est sûr que évidemment le coloriste n'y est pas beaucoup, mais on s'en rendait peu compte sur tout l'aspect des dessins de Zuccus, là, puis sur sa planète, vu que c'est quand même une race assez particulière, tout ça. Par contre, quand on retombait avec nos personnages qu'on suit, remarquez la différence ici. Là, on est dans un style beaucoup plus cartoon. Hein, on ne s'en cachait pas, là. regardez le visage de Valence, de Bosque, c'est pas laid, hein. Je trouve ça super beau. C'est juste que la différence de style avec Villanelli est assez flagrante.
C'est un peu ça. Et c'est bien qu'il soit tombé dans ce numéro qui comporte, on va dire, peut-être la moitié de pages de flashback sur Zuccus et sa race. Du coup,
je pense que c'est plus que la moitié.
C'est vrai, tu trouves, ouais.
C'est vraiment un numéro filler, là, ou en tout cas, que je comprends pas bien, il vient faire quoi là-dedans.
Ouais. Bon, après, moi, j'aime bien. Il y a une espèce d'araignée géante, là. Elle est où, là? C'était le numéro 32, tu me dis? Voilà, ce petit splash page. Moi, j'aime bien. Dès qu'il y a un peu de monstre, ça me fait plaisir. Donc là, c'est une espèce de rite de passage avec Zuccus qui doit prouver à sa tribu qu'il est digne ou je sais pas quoi. Bon, c'est vrai que l'histoire est un peu Osef, mais bon. Il y a du monstre, donc. Bon.
Et ça, c'est une race qu'on a très peu explorée, quand même. Hein, donc, c'est intéressant de l'explorer.
Tom, dans votre podcast sur le tome 2, il parlait de... Il m'a fait rigoler, j'ai écouté ça tout à l'heure. Il parlait d'un caca avec des yeux de mouche dessus. Ça, c'était Zuccus.
Oui, effectivement.
Il m'a fait rigoler, Tom.
Non, fait qu'au global, quand même, je dirais qu'au niveau de dessin, on est servi. Mais c'est ça, moi, je continue de trouver qu'au niveau scénario, c'est... Comment vous dites en France, le minimum syndical, quelque chose comme ça, c'est ça. Je trouve que ça flamboie pas. C'était une belle surprise de ramener l'Escouade Inferno, mais comme je disais, c'était pas une surprise dans le sens où c'était déjà teasé depuis même l'autre album précédent. L'histoire d'amour, bon, si on peut dire, là, l'officier impérial là, qui est amoureuse de Valence, c'est intéressant. Moi, en fait, je me demandais pour qu'on continue de suivre ça. Dans le sens où je trouvais ça un peu débile au départ. Ça a commencé quoi dans l'album numéro 3, peut-être, quelque chose comme ça. Bon, on peut dire que ça va avoir son importance, si on peut dire, un peu plus tard. Mais c'est un peu à sens unique ou en tout cas c'est ça. Vous allez voir dans le tome 7 comment ça se conclut là, mais...
voilà il y a une conclusion de Stark là dans le tome 7 et qui ouvre aussi peut-être sur quelque chose d'autre après donc c'est un peu des graines qui plantent là pour le futur de Valence et cette série là je pense
ouais c'est ça Excellent. Fait que si je te demandais, Jean, de donner une note. Ou tu avais peut-être sélectionné quelques variantes, hein, je pense.
Ouais, il y a les couvertures. Parler des covers vite fait, moi. Je sais pas ce que t'en penses, mais les six numéros, parce qu'il y a six numéros dans ce tome-là, j'ai trouvé les covers plutôt stylés pour un peu toutes qui ont été sélectionnées pour les numéros. Je trouve ça très cool. Je sais pas ce que tu en as pensé, qu'est-ce qu'on a. Là t'as sélectionné une variante.
Les officiels,
les régulières.
Je les ai pas beaucoup aimés. Je les ai pas énormément aimés. Choix de celle de l'album, là, c'était bien.
Elle est bien, celle-là.
Il y en a d'autres.
Celle de la miniature aussi qu'on a choisie, elle est très très bien. Ouais. Celle-là, je sais pas ce que tu en penses, c'est celle de la du numéro 30, où on voit Valence avec le poing enflammé et Dark Vador derrière dans les flammes et tout.
C'était bien, mais je peux pas m'empêcher de me demander pourquoi le logo de Crimson's Dawn qui est encore là,
c'est vrai qu'il n'y a pas du tout mention de ça. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais il n'y a vraiment pas du tout mention de Crimson Dawn, à part le fait que la Team Tonga est censée bosser pour Valence, Crimson Dawn au début, mais c'est tout, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu nul. Mais cette couverture, par contre, m'a très très déçu. C'est le quatrième de couverture du tome. Donc c'est Vador contre Valence, ça devrait être épique, ça devrait être magnifique. Et je t'avoue qu'elle est un petit peu...
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'une des pires, c'est celle qui est type emballage de jouets un petit peu. Là, où, je sais que c'est quelque chose que Marvel a tendance à aimer. Là. Ouais. Ça rappelle un peu les vieilles séries des années justement 70.
C'est du 33, ouais. La fin de Squad qui arrive un petit peu dans la fumée. Ouais, je sais pas, moi, ça m'a plu. Ça m'a toujours fait plaisir de revoir ce type-là.
Moi, je parle quand on voit des personnages dans des cases à côté. Là.
Ah oui, c'est vrai.
On voit ça de temps à autre sur peu importe quelle série de comics, là, on voit ça de temps en temps. C'est... moi, c'est pas quelque chose que
je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Surtout qu'ils mettent Dengar alors qu'il n'est pas du tout dans le tome. Donc,
c'est vrai. J'avais même pas remarqué. Effectivement, il n'est pas du tout dans l'histoire. Je vois vraiment pas ce qu'il vient faire. Là. Mais bon.
Et c'est pas plus mal hein, parce que des 1, 2, 3, 4, 5 chasseurs de primes qui sont là, de la core team, on va dire. Franchement, Dengar, désolé, mais papier toilette, quoi. C'est pas mon préféré. Moi.
Non, effectivement.
Et dernière variante, on va voir vite fait. Donc, t'as mis celle avec Bosk et le couteau. Bon, c'était pas top top. Celle-là, je la trouve très jolie. C'est pour la Black History Month. Je te laisse contrôler le truc. Celle-là, la Black History Month, qui est pas mal, qui voit le lieutenant Hayden. Donc, qui est peut-être un clin d'œil. Est-ce que tu crois que c'est le nom Hayden, c'est pas un hasard quand même? Hayden.
Je ne saurais dire. Disons que par contre, elle présente pas beaucoup de ressemblance, de très familial avec notre cher Hayden.
En tout cas, moi, j'aime bien ce personnage-là. Donc, et la couverture est plutôt jolie. Je ne sais plus qui l'a dessiné. Mais moi, je vais encore te saouler sur ça. Mais il faut vraiment que tu découvres
ce qui est ça.
Voilà, ah, c'est bon. Moi, tu te rappelles du nom. C'est bon, force.
Il y en a une à chaque fois.
Oui, carrément. Bon, alors voilà, c'est Nakano Lash. C'est pas le meilleur personnage, mais bon. Moi, j'aime bien cette race. C'est dessiné par le trait un petit peu manga de Peach Momoko. Je la trouve encore une fois à tomber, mais je suis un gros fanboy. Je sais pas ce que t'en penses, toi, si t'aimes bien ou une chose plus, quoi.
Pas dans une histoire comme celle-là. Je sais pas. Je trouve que c'est un style évidemment très 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 japonais animé. Je trouve que c'est trop doux, c'est trop. Je sais pas, j'associe pas ça à la violence d'un truc comme cette série-là de Bounty Hunters. Mais bon.
C'est-à-dire, t'imagines, elle arrive en mode remplaçante aussi pour faire un numéro en plein milieu du truc, là, c'est mort, hein, ça va casser le style.
Non, ben tu sais, c'est des couleurs ultra pastel tout le temps. J'associe ça à la douceur, donc tu comprends ça, c'est ça. Ça marche pas du tout avec cette équipe-là.
Je crois que c'était pour la Woman's Month variant, là, le truc. Celle-là avec l'Inferno Squad aussi est pas mal, sauf au niveau des visages. Je trouve que Versio, elle a un visage un peu bizarre, quand même.
Dans les trois cas, effectivement, on ne reconnaît pas nécessairement les acteurs, mais ouais.
Non, mais même les, leur modèle un petit peu du jeu vidéo, donc c'est Gideon et c'est quoi le dernier, Del Mico, je crois qu'il s'appelle.
Ouais.
Les trois là, donc ouais, sympa la proposition, sympa, mais au final, je sais pas, le visage quoi. Mm. Et la dernière, elle est vraiment aux F, c'est l'arc IG-88 avec Vulcorial, je sais pas quoi, qui est pas inintéressant, son arc est pas inintéressant, les phases avec IG. ça pète, il y a de l'action, c'est pas mal. Ouais. Vulcora, j'aime beaucoup le passage où, tu sais, elle prétend ne plus être, tu sais, elle démissionne juste avant qu'Ija arrive. Du coup, ouais, techniquement, elle est plus membre du gang. Du coup, elle se protège et elle bute tous les autres par IG. C'était pas mal, mais...
Non, entièrement d'accord avec toi, en fait, c'est que c'est intéressant, mais que c'est tellement dilué en par exemple, deux pages par numéro, ou même pas, que c'est ça, c'est ce qui est dommage, je trouve, qu'on a du mal à suivre. Parce qu'il faut, tu sais, là, évidemment, là, c'est dans une compilation, c'est dans un album qu'on peut les lire d'un seul coup si on a le temps. Mais souvenez-vous que normalement, ça sort à environ, là, le rythme, c'est environ un par mois. Donc, moi, ce qui s'est passé il y a 5-6 mois, là, pour moi, c'est loin, là. Surtout, là, quand on parle de deux pages sur tout un numéro. Là. Fait que, c'est ça. Vraiment, des choix, je trouve, scénaristiques très, très douteux. Mais écoute. Après ça, c'est le choix qu'Ethan Sachs fait, puis que Marvel fait aussi. On a mentionné, c'est ça, là, dans le fond, est-ce que tu es certain, as-tu vérifié en termes de nombre de numéros que le 7e va être le dernier?
Oui.
Ça va rentrer dans un seul volume, ok.
Ouais, c'est Dark Droid, donc ça va conclure le numéro. Et il y aura 6 numéros aussi. Ça sera un gros tome, le dernier, comme Afra, pareil. Et ouais. J'espère ne pas dire de bêtises, hein. Je crois l'avoir vérifié, mais là j'ai un doute.
Je me souviens plus de finir le numéro, mais ouais.
Parce qu'on est à combien?
Excellent. Donc, si je te demandais une note pour cet album-là, Jean?
Ouais. Alors, niveau note, moi j'ai mis un... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un 16, voilà. Un 16, comme pour les trois premiers tomes de Bounty Hunter, de la série de Bounty Hunter. Bon, les tomes 4 et 5 étaient un peu moins bien parce qu'ils étaient entremêlés dans toute cette intrigue toute pourrie de Hidden Empire et Crimson Rain. Là. Mais même War de Bounty Hunter, moi, j'avais beaucoup aimé vu que Bounty Hunter dans la guerre de Chasseur de Primes, ça faisait sens. Quoi.
Ouais, et puis, au début.
Le but du truc. Ouais, c'était vraiment bien. Et les deux premiers tomes, moi, c'est une série que j'ai beaucoup accroché dès le départ, son côté brainless, actionneur. J'aime bien donc ça. Et là, voilà, le retour d'Inferno Squad. Bah, même si tu l'avais... tu vois, j'avais complètement zappé qu'ils étaient déjà présents dans le tome 5. J'avais oublié, ça fait tellement longtemps. Du coup, j'avais oublié les relire. J'étais cool, Inferno Squad, j'adore. Et pareil, l'arc sur Bastille, j'ai bien aimé. Le fait qu'il soit vraiment... c'est une aventure avec les Bounty Hunters seulement. Quoi. Un peu de Vador, vite fait. Mais c'est seulement centré sur eux. Et ça faisait tellement plaisir de lire ça. Que voilà, un petit 16 sur 20, donc c'est pas mal, quoi.
Ouais, effectivement, tu vois, moi, de mon côté, je serai pas loin de toi, je vais lui mettre un 14, fait que c'est quand même pas un chef-d'œuvre. Puis j'avais donné un petit peu plus là, au tout premier numéro, où est-ce qu'évidemment, c'était la découverte, mais le pire dans tout ça, c'est qu'on suivait plus de personnages connus. Tandis que là, c'est ça, plus le temps passait, plus on est resté sur des personnages créés pour la série, là, comme on a dit, auxquels j'accroche pas du tout. Peut-être que des gens vont vraiment s'identifier à tel personnage, puis... ont beaucoup aimé l'arc de ces personnages-là, mais bon, même moi, j'aurais préféré en fait Nakano Lash là, qu'on a mentionné, là, celle qui est la couverture de Peach Momoko. Celle-là, je trouvais que c'était un personnage intéressant, mais c'est un personnage qu'on a eu juste dans des flashbacks. Donc,
c'est
à l'origine du conflit Valance-Boba Fett. Là.
Ouais. Et là, on se focus beaucoup sur Tonga, qui est.
Ouais.
Il n'est pas intéressant. Moi, j'irai pas jusque-là, mais sans plus, quoi. Ouais. En tout cas, tu parlais des personnages, là, j'ai juste deux petits easter eggs concernant des personnages et une planète.
Ouais,
si tu me permets, vite fait. Il y a aussi un personnage qu'on n'a pas du tout mentionné de tout notre critique, qui fait partie du groupe de Tonga, d'ailleurs, qui s'appelle Tasu Leech. Donc, c'est une espèce de jeune cheveux longs musclé, machin. Voilà, un gladiateur, donc qui a été recruté dans la team et tout. Mais vraiment, moi, c'est un des personnages que je me fous complètement. Je sais pas si toi, il t'intéresse.
Ouais, le pire, c'est qu'ils ont quand même été lui chercher une petite personnalité distincte là, pour qu'on fasse bien la différence. Mais effectivement, c'est essentiellement toujours la même chose. Là, on tourne en rond. Moi, je n'ai pas vraiment vu d'intérêt
à ce
qui, si je ne me trompe pas, est encore là dans le volume 7, hein, ouais. Mais c'est ça. C'est vraiment une série, je trouve, qui prend tellement de temps pour fermer ses intrigues, pour... c'est ça. J'en dis pas plus.
Mais justement, je ne sais pas si ça va te le faire remonter dans ton estime. Moi, ça me l'a fait remonter parce que je ne le savais pas. Parce que Tasu, j'ai oublié son nom, Leech, voilà. Ça ne me disait rien du tout. Et en fait, t'as su en révélation... Ce personnage-là, c'est la version jeune d'un personnage d'un film, parce qu'il est dans l'épisode 7 de Force Awakens. C'est lui le chef du Kanji Club qui attaque Solo et qui se fait bouffer par les Raftars. Mais oui ! Et il est joué par l'acteur Yayan Ruhian, qui est un des géniaux acteurs indonésiens des films The Raid et The Raid.
Ouais, ouais, ça, les gens qui n'avaient pas vu, les gens qui n'avaient pas vu les deux films The Raid, là, c'est quelque chose.
Énorme.
La grosse surprise là, quand que j'avais réalisé que c'était les mêmes acteurs dans The Force Awakens, mais tu sais, c'est une toute petite apparition qu'ils ont là, dans le film. Abrams avait beaucoup aimé leur film, là, The Raid. Donc, je ne savais pas du tout. Je savais pas du tout que c'était le même personnage. Écoute, il remonte dans mon estime.
Et du coup, ben, merci d'avoir mis justement la page où on voit ce Tasoulish là, affalé. Là, c'est lui le gars aux cheveux longs affalé. Et ouais, je me rappelle qu'à l'époque de l'épisode 7 où on a vu les spoilers comme quoi ces acteurs de The Raid allaient jouer dans Star Wars, tout le monde pensait que ça allait être eux les Knights of Ren et qu'il allait y avoir des combats de fous et tout, tu vois. Et la déception, parce que bon, la scène du Kanji Club est sympathique, mais leurs capacités martiales ne sont pas du tout mises en valeur dans le film. Quoi. C'est tellement drôle.
Non. C'est vraiment une apparition, un caméo. Ouais. C'est pas.
Sur le fameux vaisseau
entrepôt, on va dire, là, de Han Solo.
Voilà, c'est ça. Et moi, ça me fait beaucoup plaisir de voir que ce personnage-là a été repris dans cette série en version jeune. Et c'est rigolo parce qu'il y a un background, comme tu dis, on parle de son background. C'est un gladiateur de la planète Narkanji. Et Narkanji, bah, c'est rigolo parce que ça. Il va reprendre le nom pour le Kanji Club, quoi. C'est cool, quoi. Moi, rien que ça, ça m'a trop fait marrer. Et ce qui est cool, c'est que tu disais dans le tome 7, il revient, mais je sais plus, faudrait que je... Pourtant, je les ai lus il y a pas longtemps, les numéros du tome 7, mais je pense pas qu'il revienne.
Pour ceux qui évidemment, qui prennent juste en français, ça vient tout juste de se terminer là, à la fin janvier, là, Bounty Hunters, en anglais. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas certain que ça rentrerait tout dans un septième volume, là, mais ouais.
Ouais, il faudrait que je vérifie, je suis sûr que je crois que je suis en train de dire une connerie. Mais... En tout cas, pour finir sur ce personnage, lui, à la fin du tome 6, en tout cas, il se barre avec Lasha, donc la copine de Tonga, et moi, j'ai adoré, justement, parce que c'est les deux personnages les pires du groupe, j'en ai rien à foutre de ces personnages-là, et c'est les deux qui se barrent de la team. Du coup, je suis content, parce que dans le tome 7, ils seront peut-être moins présents que dans le tome d'avant.
Ça, c'est celle aux cheveux roses, là, pour ceux qui... on la voit ici.
Non, on les revoit, t'as raison, je reviens, j'ai un flashback, là. C'est bon, je me rappelle de Lasha, au moins Lasha, on la reverra, malheureusement, dans le tome 7. Et dernier petit easter egg avant de finir, là, la planète Bestin. Donc, planète Bestin qui est présente donc, dans la galaxie Star Wars depuis, est-ce que tu saurais dire depuis quand la planète Bestin du premier arc de ce comics est présente?
On précise, hein, c'est pas Bespin, c'est Bestin.
Ah non, c'est Bestin, Bestin. Ben, c'est une planète qui a été nommée dans le tout premier film New Hope de 1977, en fait. Et plus précisément dans une des scènes coupées, donc la fameuse coupée de Toshi Station, où t'as le pote, c'est Biggs.
C'est ça, ouais. Je sais plus. Qui est avec sa blonde, sa copine.
Voilà, c'est ça, qui va parler à Luke, et donc Biggs qui mentionne le fait que l'Alliance Rebelle se regroupe sur Bestin. Voilà, donc c'est juste une mention, mais voilà, c'est là. Et ça date même, si on veut être précis, de la novélisation du film qui date de 1976, parce qu'apparemment la novélisation était sortie un an avant. Donc c'est une des plus vieilles planètes créées pour Star Wars, en fait, je trouve ça génial. Elle a été réutilisée dans le jeu vidéo X-Wing de 1993. Mais dans le canon, en tout cas, la planète Bestin a été recanonisée. Elle était nommée dans The Clone Wars, la série, ou même le jeu vidéo Fallen Order, mais juste nommée. Mais on a son apparition pour la toute première fois dans ce tome-là. Donc c'est une belle tranche d'histoire Star Wars.
Avec une planète pluvieuse, hein, on va dire ça comme ça, une planète très très humide. C'est un petit côté climat Vancouver.
Ah oui, c'est complètement ça, ouais. Surtout en ce moment. Là. c'est ça. Mais c'est cool ça, qu'ils aient ramené cette planète-là.
Excellent. Ben, écoute, c'est sûr, c'est quand même une bonne critique là, globalement qu'on va conclure l'émission d'aujourd'hui. On vous invite, comme toujours, à venir en discuter avec nous. Entre autres sur notre Discord, hein, c'est toujours le fun, là, ces temps-ci, justement, on est parti sur des discussions en lien avec la troisième phase de la Haute République. Les différents aspects là, du comment dire de Eye of Darkness et compagnie là. Fait que, ouais, venez nous donner notre avis aussi de cet album-là, évidemment, sur YouTube. Comme d'habitude, là, on vous demande un petit coup de pouce avec les pouces, justement, les partages, les j'aime. Même les dons, maintenant, là, c'est très, très facile. Ça prend un clic de souris. Et comme on dit souvent, c'est loin d'être à but lucratif. Ça paye pas des salaires ou des vacances au sud. C'est ça. C'est tout simplement pour payer les serveurs et tout ça, les dépenses réelles là, que Star Wars en direct, parce que c'est ça. Faut que ce soit sur des serveurs, hein, nos émissions. Et les serveurs coûtent de l'argent. Et on ne l'a pas mentionné, hein, mais joignez les différents médias sociaux, Star Wars en direct podcast sur Facebook, SW en direct sur Instagram et SW.bsky.social sur le nouveau réseau, je ne sais pas comment dire, médias sociaux, là, Blue Sky, que j'ai toujours pas compris. Je crois que c'est un concurrent à X là, pour les gens qui sont fâchés contre Elon Musk. Bref, voilà. Donc, on les salue. Qu'est-ce qu'on sait qui est au programme, Jean, de ce qui s'en vient?
Alors, ce qui s'en vient, ce qu'on sait de source sûre, c'est que le Dr. Aphra tome 6 est prévu et oui, en phase d'enregistrement proche, on va dire.
Album sort aussi... la même journée, hein, qui sort en magasin la même journée que voilà. Bounty Hunter.
C'est ça. On a aussi un manga, donc la critique du manga Rebels, les trois tomes de manga Rebels, qui seront sortis, enfin le troisième tome sera sorti d'ici là en France, qui est prévu. Et voilà, et je crois que c'est tout pour l'instant niveau littérature.
Ouais, côté littérature, évidemment, le prochain roman à sortir, c'est Defy the Storm. Il est sorti tout récemment le petit roman jeunesse, là, Escape from Valo. Malheureusement, comme tu as confirmé, ben, je peux te laisser le confirmer.
Ah ben non, mais justement, oh, non, j'allais justement te dire, ben oui, l'audiobook du roman n'est pas sorti en même temps que le roman, qui lui est sorti fin janvier. Là, nous, il va falloir attendre mars pour récupérer l'audiobook. Donc, dégoûté.
Ouais,
dégoûté.
Ouais, c'est pas la première fois hein, avec les jeunesses.
Non, c'est vrai.
C'est peut-être la troisième fois, peut-être. Je sais pas, écoute, peut-être des histoires de délai, de production. Ouais.
Ça a été confirmé. On a vu les tweets d'un dirigeant de Lucas Press ou je sais pas quoi, d'un gars, un insider. En tout cas, lui, il a dit que ouais, l'audiobook prendra un peu plus de temps en mars. Et j'étais ah là là là. En plus, nous, on le découvre pas. Enfin, il nous dit ça le jour même où le papier sort. Donc, nous, on est là sur Audible. Ah, yes, vas-y, on va choper l'audiobook. Et bam, tu cherches, tu l'as pas. Alors, je suis allé sur Audible US parce que parfois, au Canada, il n'y a peut-être pas l'audiobook, et bam, il était toujours pas là, et là, bam, sur les réseaux, il te disait non, l'audiobook est pas dispo. Oh là là, quelle déception!
Ouais, ben d'un autre côté, c'est mieux que de rester dans l'incertitude, à savoir si on attend pas, est-ce qu'on le prend en papier ou pas. Fait que, bref. Fait que, côté littérature, c'est ça. Je sais qu'on l'a mentionné dans d'autres épisodes, mais il y a un gros épisode musique qui s'en vient. Dany nous a expliqué ça là, dans l'épisode Eye of the Storm que. C'est un épisode assez lourd à monter tout ça parce que dans le fond c'est pas juste une analyse comme on fait en ce moment qui demande quand même un peu de préparation, mais c'est ça, c'est pas du tout de la même ampleur. On vous dit là, Dany prépare quelque chose de gros. Ça va être un Star Wars en direct musique. Et au fil qu'on va s'approcher, ben là, il va y avoir la série de Bad Batch qui va commencer.
Ah, c'est vrai.
Donc, on va sûrement avoir, je sais que Jean, toi, tu t'aimes pas du tout, là, mais moi, j'aime beaucoup les clins d'œil, surtout.
Ah oui, voilà, Bad oui.
Ouais, ça, il y en a beaucoup, donc.
Oui, oui. Non, mais on va faire quand même.
Mais comme les autres saisons, je pense qu'on va pas faire un Star Wars en direct par épisode. On va plutôt y aller par arc, en espérant que c'est encore des arcs. Mais bref, fait que au niveau série télé, tout ça, ben, ça va être pas mal ça. Et tranquillement, pas vite, on va commencer à avoir des spoilers, des choses comme ça sur ce qui s'en vient, là, The Acolyte. Ça va être quoi déjà en 2024? La deuxième, ça va être...
Ah, Skeleton Crew.
Skeleton Crew, hein. Il y a des rumeurs en ce moment, là, donc fait que c'est ça. On va sûrement vous arriver avec un épisode, soit un quad neuf, soit un spoilers là, éventuellement là-dessus. Donc voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous!